Le Pentagone va créer un commandement Ukraine. Je l'ai dit à maintes reprises, l'opération militaire limitée du Kremlin est une erreur fatale qui conduira à une guerre plus large. Ces propos, qui sont ceux du sous-secrétaire américain au Trésor chargé de la politique économique, dans l'administration Reagan, rédacteur en chef, adjoint et chroniqueur au Wall Street Journal, chroniqueur à Business Week et au Scripps au Harvard News Service, trouvent aujourd'hui des échos terrifiants. Dans la bouche d'experts ou non, chacun tranquillement installé dans son fauteuil face aux caméras, chacun donnant hardiment sa propre interprétation, ignorant qu'une seule erreur d'interprétation de part et d'autre peut signifier la fin de l'histoire humaine sur la face de la Terre. Sachant que l'allié tchétchène de Poutine, Ramzan Kadyrov, lui a demandé d'utiliser des armes nucléaires et qu'une société de renseignement israélienne a détecté une présence irrégulière de bombardiers russes Tu-160 et Tu-95 à la base aérienne de l'ENIA près de la frontière finlandaise. Cette base abrite du matériel nucléaire et ses avions peuvent être utilisés pour larguer ce type de gifle. Le docteur Roberts, qui a occupé de nombreuses fonctions académiques et qui a écrit son dernier ouvrage « L'échec du laisser-faire du capitalisme et la dissolution économique de l'Occident », poursuit sa réflexion sur fond de la situation de plus en plus préoccupante en Ukraine dans les lignes suivantes relayées via le réseau international. Une opération qui aurait dû se terminer en une semaine est maintenant à son 7e mois et semble destinée à se poursuivre indéfiniment, car le Kremlin ne fait rien pour perturber l'effort de guerre du gouvernement ukrainien ou les fournitures d'armes sans fin que l'Occident déverse en Ukraine. Ce conflit de longue haleine a permis à la propagande occidentale de présenter l'armée russe comme infructueuse et de convaincre les décideurs occidentaux que la Russie peut être vaincu en Ukraine. Cette conviction a conduit à des niveaux d'engagement occidental toujours plus élevés. Avec la création par le Pentagone d'un commandement Ukraine, nous nous rapprochons de l'introduction de troupes américaines. En fait, les forces militaires américaines sont déjà impliquées. Elles forment les soldats ukrainiens au quartier général européen de l'armée américaine à Weisbaden, en Allemagne, engageant ainsi l'Allemagne dans l'intervention en Ukraine. Le personnel militaire américain fournit des informations de ciblage pour les attaques de l'Ukraine contre les positions russes. Pourtant, malgré l'implication croissante des États-Unis et de l'OTAN, le Kremlin s'accroche à son opération limitée, dangereuse par son échec et ses erreurs de calcul. Car les atermoiements de la Russie ont convaincu l'Occident que le Kremlin n'a pas l'estomac pour un véritable conflit, encourageant Washington à faire un pas de plus vers l'envoi de troupes en formant un commandement Ukraine. L'accent mis par Poutine sur le légalisme pourrait bien causer la perte de la Russie. Le Kremlin aurait pu éviter le conflit ukrainien en faisant en 2014 ce qu'il fait tardivement en 2022, accepter la demande des Russes du Donbass d'être rendus à la Russie. Le Kremlin aurait pu éviter l'engagement militaire des États-Unis et de l'OTAN en Ukraine en assommant l'Ukraine avant que l'Occident n'ait le temps de réagir. Les gaffes ont un coût et le coût des gaffes du Kremlin est en train de se transformer en un conflit direct entre les soldats américains et russes. Macron défend auprès de Zelensky de nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Lors d'un entretien avec son homologue ukrainien, le président français s'est engagé à travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions anti-russes après l'adhésion à la Russie de régions que l'Ukraine considère siennes. Selon un communiqué de l'Élysée publié ce 2 octobre, le président français Emmanuel Macron a, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue Volodymyr Zelensky, réaffirmé la détermination de la France à aider l'Ukraine à retrouver sa pleine souveraineté et intégrité territoriale et à travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions contre la Russie. L'UE avait condamné le 30 septembre la signature de traité d'adhésion à la Russie de 4 autres régions, par les dirigeants de celles-ci et par le président russe Vladimir Poutine. Ces signatures faisaient suite à l'organisation de référendums auxquels Kiev et les Occidentaux ne reconnaissent aucune légalité ni légitimité dans le contexte de conflit en Ukraine. Partant, l'UE a proposé de plafonner le prix du pétrole russe et d'ajouter de nouvelles restrictions aux échanges commerciaux avec Moscou. Les États-Unis avaient de leur côté annoncé de nouvelles mesures sévères contre la Russie, venant s'ajouter aux sanctions déjà en vigueur depuis le début du conflit en Ukraine, condamnant ce qu'ils considèrent comme une tentative frauduleuse par la Russie d'annexer des parties de territoire en Ukraine, selon un communiqué du président américain Joe Biden rendu public le 30 septembre. Les référendums organisés du 23 au 27 septembre ont vu la victoire du oui selon les données officielles des territoires concernés, avec 99,23% des voix dans la République populaire de Donetsk, 98,42% dans celle de Lugansk, 93,11% dans la région de Zaporijjia et enfin 87,05% dans la région de Kherson. Autant de régions que l'Ukraine considère comme sienne. Après la proclamation des résultats, une cérémonie a eu lieu au Kremlin le 30 septembre en présence de Vladimir Poutine et des chefs de ces régions afin de ratifier les traités d'adhésion. Dans son discours à cette occasion, le président russe avait assuré que les habitants de Lugansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia seraient désormais et pour toujours des citoyens de la Fédération. Ce 2 octobre, la Cour constitutionnelle russe a estimé que les traités d'adhésion récemment signés par Vladimir Poutine avec la RPD, la RPL, les régions de Zaporijjia et de Kherson étaient légales et conformes à la constitution de la Fédération de Russie. La France a cédé à l'Ukraine des véhicules de l'avant-blindé VAP que l'armée de terre est en train de remplacer par des Griffons et des Serval, des missiles au Milan et Mistral des munitions diverses, des équipements du combattant et 18 obusiers, César camions équipés d'un système d'artillerie sur les 76 qu'elle possède. L'armée ukrainienne en voudrait davantage, au moins une quinzaine pour contrer l'artillerie russe, ce qui n'est pas possible en l'état, même si les 18 exemplaires qui lui ont été déjà livrés seront remplacés afin de remettre à niveau la dotation de l'armée de terre selon OPEX. Et pourtant, le 22 septembre, après avoir rencontré Catherine Colonna, son homologue française, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitri Kuleba, a affirmé que Paris et Kiev travaillaient sur la fourniture de nouveaux Césars à l'armée ukrainienne. Même si le délai pour produire un César doit être significativement réduit, 12 mois au lieu de 30, selon l'objectif récemment fixé par Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, l'armée de terre ne peut pas aller au-delà des 18 exemplaires qu'elle a déjà envoyés en Ukraine. Aussi, les obusiers évoqués par M. Kuleba ne pouvaient qu'être prélevés sur une commande passée auprès de Nexter. Ce qui serait effectivement le cas, à en croire des informations du quotidien Le Monde. Ainsi, selon celui-ci, un accord a été trouvé entre la France et le Danemark pour livrer à l'Ukraine entre 6 et 12 Césars initialement destinés à l'armée danoise. Pour rappel, en 2017, Copenhague a commandé 15 Césars vite aux capacités accrues par rapport à ceux utilisés par l'armée française, avec une masse de près de 30 tonnes, une protection de l'équipage améliorée et la possibilité d'emporter 30 obus au lieu de 18 afin de remplacer ces systèmes M109 en service depuis les années 1960. Puis cette commande a été revue à la hausse en octobre 2019 avec 4 exemplaires supplémentaires. Un engrenage qui pourrait être mortifère, Bardella réagit à la demande de Kiev d'intégrer l'OTAN. Le candidat à la présidence du Rassemblement national a émis des réserves fermes sur l'adhésion à l'OTAN demandée par Kiev. Selon lui, le statut du pays en situation de conflit armé créerait les conditions d'une co-belligérance des pays membres. Sur le plateau de l'émission Le Grand Rendez-vous commune à Europe 1, CNews et Les Échos, le vice-président et prétendant à la présidence du Rassemblement national, Jordan Bardella, est revenu sur la demande d'adhésion accélérée de l'OTAN récemment formulée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'eurodéputé a dans un premier temps estimé que la Russie était en train de créer autour d'elle les conditions d'un isolement partiel ou relatif sur la scène internationale, assurant que des pays traditionnellement bienveillants envers la Russie, comme la Serbie ou le Kazakhstan, montraient des réserves devant l'attitude de Moscou. On voit que, y compris la Chine, a marqué une prudence dans son vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle s'est abstenue. Sur la reconnaissance de ces territoires et sur ces référendums, dont personne ne peut admettre le résultat, a-t-il entre autres expliqué, qualifiant la politique de Vladimir Poutine de sans issue. Pour autant, accepter la demande ukrainienne d'adhésion à l'OTAN pourrait, selon lui, faire entrer l'Europe et le monde dans un engrenage qui pourrait être mortifère et extrêmement dangereux. Si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, tous les pays de l'OTAN ont un devoir, par définition, d'assistance à l'Ukraine, qui est un pays agressé, qui est un pays en guerre, a-t-il ajouté. Expliquant qu'une telle perspective créerait les conditions d'une co-belligérance des pays de l'Alliance. Pour lui, la France doit continuer à trouver les moyens de la paix. L'adhésion à l'OTAN doit être approuvée à l'unanimité par les 30 pays membres, rappelle Stoltenberg. Le président ukrainien a annoncé le 30 septembre que l'Ukraine allait signer une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. Après que Moscou a formalisé le rattachement à la Fédération de Russie des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que des territoires de Zaporijie et de Kherson, une procédure jugée illégale par Kiev et les Occidentaux, à l'issue d'un discours de Vladimir Poutine au Kremlin. Nous adoptons une mesure décisive en signant la candidature de l'Ukraine en vue d'une adhésion accélérée à l'OTAN, a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Sur cette question, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, est resté évasif, rappelant qu'une adhésion devrait être approuvée à l'unanimité par les 30 pays membres. La Russie a maintes fois mis en garde contre un élargissement toujours plus à l'est de l'Alliance Atlantique et particulièrement contre toute tentative visant à faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, une perspective qu'elle considère comme une atteinte à sa sécurité. Selon Vladimir Poutine, un des objectifs de l'opération spéciale lancée le 24 février par l'armée russe en Ukraine était d'ailleurs de démilitariser le pays. Dans un document rendu public ce 2 octobre, la Cour constitutionnelle russe a affirmé qu'elle reconnaissait et a jugé conforme à la Constitution de la Fédération de Russie les traités signés avec Moscou par les 4 entités territoriales situées à l'est et au sud de l'Ukraine. Les parlementaires russes doivent entériner les accords lors d'un vote ces prochains jours. Selon certains experts, tant que les États-Unis continuent de vendre leurs armes à leurs seigneurs de guerre européens avec une économie européenne qui s'effondre de l'intérieur, le tout à cause de l'aveuglement des soi-disant dirigeants vendus de lieu, le conflit russe-ukrainien persistera dans le temps et dans l'espace. Il va falloir écraser la tête du serpent qui est le sionisme international. La piste américaine se confirme sur le sabotage subi par Nord Stream. De plus en plus de détails troublants apparaissent au sujet de la destruction du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, la chaîne d'information arabe. Al-Mayadeen vient d'annoncer que, des semaines avant l'attaque, des hélicoptères américains tournaient déjà très souvent au-dessus de la zone maritime où ont justement eu lieu les explosions fatales du 26 septembre. Les données de vol du service en ligne FlightRadar 24 permettent de reconstituer cette situation. Déjà, au début du mois de septembre, un peu moins d'un mois avant l'attentat, un hélicoptère Sikorsky MH-60R Seahawk dans la marine américaine a tourné pendant des heures, plusieurs jours de suite, notamment les premiers 2 et 3 septembre, au-dessus du site où les gazoducs ont été endommagés par la suite, non loin de l'île de Bornholm. Selon le portail de suivi des avions, l'hélicoptère américain est parti de Gdansk pour se rendre dans la zone pour survoler les gazoducs de Nord Stream. Les 10 et 19 septembre, des hélicoptères américains ont également survolé Nord Stream 1 et dans les nuits, entre le 22 et le 25 septembre, plusieurs hélicoptères sont restés pendant des heures au-dessus du site des explosions ultérieures. Les hélicoptères qui ont volé dans les nuits du 22 au 23 et du 25 au 26 septembre ont laissé des traces de vols particulièrement troublantes. En outre, la dernière nuit, un hélicoptère polyvalent MH-60R Sikorsky a tourné pendant 9 heures au-dessus d'une zone maritime située à environ 250 km de Bornholm. De 17h30 à 2h30, heure d'Europe centrale, le Sikorsky peut notamment combattre des cibles sous-marines.